franceinter.fr.
Voici donc la revue de presse. Bonjour Alain Jouan.
Bonjour.
On commence par l'événement marquant de la semaine.
Ouverture demain du 70e festival du film à Cannes. 70 ans, 70 histoires proposées par le magazine SoFilm ce matin. Il faut s'y plonger, toutes valent d'être lues. J'y ai passé en fait l'après-midi hier.
Bah
de
oui.
La genèse du festival en 39, imaginé comme un manifeste antifasciste soutenu par le ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts du Front Populaire Jean Zay et annulé pour cause de déclaration de guerre. Aux années Cocteau, qui le présida plusieurs fois à partir de 53, mais qu'il avait méchamment surnommé le festival de l'escalier, parce qu'on n'y faisait que monter et descendre des marches, au scandale de la projection de Nuit et brouillard en 56, qui mobilisa la presse de gauche alors pour faire plier la RFA, qui réclamait alors la censure du documentaire de René, de la Palme d'Or pour Viridiana de Buñuel, qui provoqua, paraît-il, tellement la colère de Franco qu'il aurait mitraillé l'écran sur lequel on lui avait projeté le film dans le Palais du Prado, au coup de Sant Coppola, qui, quand on lui annonça que les jurés s'apprêtaient à lui donner la Palme d'Or ex aequo avec le tambour, pour Apocalypse Now, rétorqua calmement « Qu'ils choisissent, je ne veux pas partager », jusqu'à l'implication de la CGT dans le festival, parce que sans les sacrifices des travailleurs, explique Philippe Martinez de la Confédération, il n'y aurait ni palais où voir les festivals, où les voir les films, ni palace pour les stars, ni film tout court. Alors voilà, SoFilm, tout le sucre de Cannes, c'est à déguster pendant les 10 jours du festival, au moins.
Et à écouter sur France Inter, évidemment. Arnaud Desplégin sera l'invité de Léa Salamé demain à 8h10. Et on devrait faire un petit tour à Cannes dans les prochains jours avec la matinale d'Inter. L'autre événement de la semaine maintenant, Hélène, la nomination hier d'Édouard Philippe à Matignon.
Un Premier ministre de droite, fallait oser. Salut aujourd'hui en France, le Parisien à sa une pour dire le baroque de la situation, Patrick. Édouard Philippe à Matignon, au-delà du sens politique d'une telle nomination, on va y revenir, c'est d'abord un homme encore peu connu des Français, élément de portrait à foison dans la presse ce matin, du plus sérieux au plus anecdotique. Savez-vous qu'il a déjà trucidé 2 parlementaires de droite? Bon, ok, c'est pour de faux, même si on pourrait filer la métaphore sur les visées que poursuit le président en le nommant Premier ministre. C'est le journal du Dimanche sur son site qui nous rappelle l'œuvre littéraire d'Édouard Philippe, menée avec son copain juppéiste Gilles Boyer. 2 polars, l'heure de vérité et dans l'ombre, dans lesquels il dresse un portrait sombre du milieu politique entre hommes d'influence, double vie, financement occulte et fraude présumée aux primaires. Savez-vous qu'il est drôle? Le site du Parisien a remonté son compte Twitter pour relever ses saillies. Octobre 2016, le club de foot havrais l'emporte contre l'AC Ajaccio lors d'une rencontre en Ligue 2. Le maire du Havre célèbre la victoire du club de sa ville, mais note, pour le hashtag, ça va pas être possible. Ça donne effectivement hashtag AKK. Ouais, pas que British, l'humour d'Édouard Philippe. Qu'il peut être aussi cogneur, c'est lui qui raconte comment...
Non, vaut mieux pas répéter.
Non, Bernard n'a pas l'air d'accord pour que
moi
je répète.
J'ai très bien compris, mais c'est pas à peine de répéter.
Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas compris, d'accord.
On répète pas, okay. Et bien qu'ils aillent voir le site du Parisien, alors.
Voilà,
non,
c'est ça.
Bernard a compris.
Ah oui, d'accord, oui.
AKK, HAC.
Ah oui, c'est un acronyme de, d'accord,
voilà,
ok, très bien.
Du club de foot du Havre et du club de foot d'Ajaccio.
Très bien, ok. Alors, cogneur, ensuite.
Cogneur, c'est lui qui le raconte. Et il raconte comment il a failli en venir aux mains avec Nicolas Sarkozy en 2002 lors du congrès fondateur de l'UMP. C'est un épisode qui est relaté dans le portrait que Vanessa Schneider lui consacre dans Le Monde. Il est sanguin et moi, j'aime pas qu'on m'engueule. Mais hier, le nouveau Premier ministre a passé un coup de fil au même Nicolas Sarkozy avant l'annonce de sa nomination. Par courtoisie, dit-il. C'est un littéraire. Il relie à Alexandre Dumas tous les 10 ans. Il aime Springsteen et Bowie. Il est fan de Star Wars et de Sean Connery. Mais il imite encore mieux Valéry Giscard d'Estaing. Il a préparé l'ENA dans le bureau au Sénat de Jean-Luc Mélenchon, avec son copain de gauche, Jérôme Gage, qui était alors attaché parlementaire du futur Insoumis. Enfin, le site BuzzFeed nous rappelle qu'il est l'un des 5 députés de droite à s'être abstenu lors du vote de la loi sur le mariage pour tous, qu'en revanche, il a voté contre la loi sur le renseignement, jugeant qu'elle présentait un risque grave pour les libertés individuelles. L'Humanité rappelle avec gourmandise les chroniques tenues pendant la campagne par Édouard Philippe dans Libération, lorsqu'il doutait que Macron soit un nouveau Kennedy doublé d'un Mendès France. Le premier avait plus de charisme, le second plus de principe, écrivait-il alors. L'UMA souligne surtout son passé de lobbyiste dans l'entreprise du nucléaire Areva entre 2007 et 2010, ce dont les écologistes s'émeuvent déjà.
Alors, quel sens donner à cette nomination, Hélène?
Dans l'opinion, Ludovic Vigogne s'amuse d'une formule publicitaire. Édouard Philippe a quelque chose d'une station totale. Il ne vient pas à Matignon par hasard. Le journaliste rappelle qu'outre ses affinités personnelles avec le secrétaire général de l'Élysée, le député de Seine-Maritime a anticipé le moment qui venait. Dès mars dernier, il disait « La recomposition arrive, il y aura un mouvement passionnant, il s'y est donc préparé. L'accident Juppé au primaire va libérer de sa fidélité absolue à l'ancien Premier ministre. Désormais, il est prêt à transgresser, raconte Isabelle Fissek dans Les Échos. Alors un homme de droite à Matignon, comme le titre la plupart de vos quotidiens régionaux, pourquoi et pourquoi faire ? Ni cohabitation, ni ouverture, explique Cécile Cornudet dans Les Échos ce matin. Emmanuel Macron innove, mais sans que l'on sache trop qualifier l'attelage pour l'instant, reconnaît-elle. S'agit-il d'une recomposition politique ou d'un brouillage supplémentaire ? Certes, le nouveau Premier ministre tente déjà de prouver qu'il entend peser sur le cours des choses. Sa nomination a été retardée d'une demi-journée parce qu'il a voulu se blinder et discuter pied à pied de ses conseillers et de ses ministres. Mais quel paysage politique sortira des législatives, se demande-t-elle. Alors si cette nomination est bien une rupture, confirme l'historien Jean Garrigue dans La Croix, elle n'en recèle pas moins une fragilité, relève Laurent Geoffrin dans Libération. Ce n'est pas le tout de couper les deux bouts de l'omelette, pour reprendre la métaphore culinaire d'Alain Juppé, à savoir rassembler les gens raisonnables au centre en les séparant des deux F, le FN et la France Insoumise, mettre au tapis un peu plus la gauche et fracturer la droite. Certains risquent de devoir choisir entre un centre qui leur déplaît et des extrêmes qu'ils réprouvent. Faut-il se résoudre à voir disparaître toute alternative de gouvernement à un centre qui se veut hégémonique, s'interroge Geoffrin. Alors pourquoi faire maintenant ? Eh bien dans la tribune qu'il livre à l'opinion, le député européen socialiste Emmanuel Morel affiche son scepticisme. Il y a quelque chose de jouissif dans ce chamboule-tout, qui ne chamboule pas grand-chose, à l'exception des hommes et des femmes de pouvoir dont il a contrarié le destin, écrit-il, du nouveau président. À l'exception de rares propositions relatives à la modernisation de la vie publique, les innovations promises sont rares, constate-t-il. La mesure la plus ébouriffante consisterait à baisser les charges, c'est dire, on fait mieux comme révolution. Bref, pour l'instant, Macron se contente d'incarner le changement sans risque fantasmé par Giscard. Il est le leader d'une marche sans but, car ce qui compte, c'est le mouvement, mais le mouvement perpétuel, n'est-ce pas la meilleure garantie, se demande-t-il, de faire du surplace ? Un homme de droite à Matignon, fallait oser, dit le Parisien, reste à avancer.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.